terrible, Mycobacterium tuberculosis, qui a infecté la personne. Et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose. À cet instant-là, cette personne a la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose acquise. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en un seul regorge les deux phases, donc la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse, peut vivre longtemps avec sans pour autant qu'il puisse faire la maladie. Et l'OMS dit que rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut transmettre la maladie à une autre personne. Donc, la différence, c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en face de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, tuberculose latente et la tuberculose active.
Ah d'accord, la différence elle est vraiment claire.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Alors quels sont les symptômes, ça c'est une question d'Alphonse Boaki, quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose?
Eh bien les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent, la personne a une toux, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça c'est les premiers signes cliniques et l'autre c'est la fièvre. Donc vous avez une fièvre qui traîne avec souvent des sueurs nocturnes. Et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'asthénie physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose.
Nous allons revenir sur quelles sont sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz Bekel. Il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose. Certainement, quelles sont les causes de la tuberculose pulmonaire, bien sûr, parce que là, nous sommes en train de parler de la tuberculose pulmonaire.
Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité. Hein, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires, il y a aussi le surpeuplement. Et bien évidemment, un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
Thomas Sankara veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire si et seulement si il se retrouve dans un environnement où, comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque-là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il peut bien contracter la tuberculose. Les facteurs de risque comme la malnutrition, si la personne ne fume pas mais elle est malnutrie, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la tuberculose, les mauvaises conditions sanitaires, la promiscuité. Et tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, et bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose.
Alphonse Boaki a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche.
Oui, les temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de deux semaines, voire plus. Donc, si aujourd'hui vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en toussant, en étant tout en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui sont en l'air et que vous êtes en contact avec ces postillons-là. Donc, le temps d'incubation peut être de 2 semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de développer la maladie sera encore un peu plus court, quoi, donc voire 2 semaines et plus.
Il faut aussi savoir si en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids, l'asthénie physique et la perte d'appétit. C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques de la tuberculose.
Et comment se fait le diagnostic? Est-ce qu'on peut le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier?
Et le diagnostic, il faut se rendre dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin. Et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, à savoir les tests intradermiques et les tests intras. Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de traçage, on fait la culture des mycobactéries et des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose.
Il y a Touré Vakaba. Il dit, docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs?
Pour un patient qui présente une toux interminable, déjà une toux qui met beaucoup de temps, rend suspicieux. Ce que je le penserais, puisqu'il a dit que les examens...
Les examens n'ont rien présenté.
Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin, parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, c'est une... qui n'est pas suffisamment sensible, donc qui détecte près de 43% seulement les bacilles tuberculeuses. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, quel est le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer. Essayer un autre test, par exemple, si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire les tests moléculaires, pour pouvoir avoir une confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la tuberculose.
Jean-Claude de Moulaja nous écrit depuis Mbujimayi en RDC. Il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
Concernant l'hérédité de la tuberculose, puisque c'est une maladie qui est guérissable d'abord. Je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure, et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre. Alors, s'agissant de la mère qui est tuberculeuse, qui peut donner naissance à un enfant non atteint, cela est possible. Oui, une femme qui a la tuberculose peut donner naissance à un enfant qui n'a pas la tuberculose, si et seulement si, pendant que la femme a la maladie de la tuberculose, elle est suivie, elle est sous traitement. Si elle est sous traitement, elle mettra au monde un enfant sain. Mais si elle n'est pas sous traitement et que cette tuberculose qui est là se complique, c'est-à-dire que devient une tuberculose qui se propage tout le long des autres organes. Par exemple, pour une femme enceinte, vous savez que tout passe par la voie hématogène, donc la voie sanguine. Et à travers le cordon ombilical, elle peut transmettre la tuberculose à l'enfant. Mais c'est des cas vraiment très rares.
Ok, je sais que nous reviendrons sur le vaccin dans notre émission de la semaine prochaine, quand nous allons parler du traitement et de la prévention aussi. Mais quelqu'un veut savoir, quelqu'un dit, j'ai été vacciné contre la tuberculose. Est-ce que je peux tout de même être contaminé encore, ou bien être contaminé simplement?
D'accord. Si c'est une personne adulte, je dirais oui, parce que le délai, le temps de l'immunité du vaccin BCG, bacille d'Ahmed Guerin, est de 10 ans. Donc, lorsqu'on atteint déjà l'âge adulte, on n'a plus l'immunité, c'est-à-dire le vaccin qu'on a pris il y a 10 ans de cela ne nous protège plus. Bien évidemment, même si on a été vacciné dans l'enfance, dès qu'on devient adulte, oui, on peut être exposé à contracter la tuberculose.
Un autre auditeur dit, j'ai eu un contact avec une personne souffrant d'une tuberculose pulmonaire. Que dois-je faire maintenant?
Il faut se rendre dans un centre de santé, consulter un médecin pour qu'il puisse évaluer et évaluer le risque et voir dans quelle mesure vous faire des tests pour pouvoir savoir si vous avez contracté ou pas la tuberculose.
J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger?
Vous avez été contaminée. Eh bien, le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé. Si vous êtes en contact, comme j'ai dit que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre 2 semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Donc, si cette personne a si cette personne est en contact permanent avec vous, parce que ça aussi c'est un fait, donc en 2 semaines, oui, vous pourrez lui transmettre la maladie. 2 semaines et plus, voire plus, pourrait transmettre la maladie. Mais lorsqu'on sait qu'on a la tuberculose, il vaut mieux s'éloigner, c'est-à-dire s'éloigner des proches. Très souvent, le médecin juge si ça nécessite une hospitalisation. Vous suivrez tout votre traitement au niveau de l'hôpital. Mais si juste aussi que vous pouvez aller suivre le traitement à la maison, très souvent, on isole le patient. On lui met dans une chambre où il est seul. On essaie de faire attention à tout ce qui est hygiène à la maison pour ne pas, par exemple, peut-être manger dans la même assiette que la personne qui a la tuberculose. Donc, on isole la personne pour éviter qu'il puisse aussi transmettre la maladie à ceux qui sont proches de lui. Donc, quand on a la tuberculose, on sait qu'on est sous traitement. Et bien, si on est à la maison, on fait attention. On évite trop de contacts avec les autres pour éviter de propager la maladie.
Ça rejoint certainement la question d'Alphonse Mouaki qui veut savoir si quelqu'un qui souffre de tuberculose infecte aussi ses vêtements ou bien des surfaces, comme on le voit avec le coronavirus.
Oui, la tuberculose pulmonaire, oui. Mais il faut que ça soit des contacts très répétés. Mais ce n'est pas comme avec la COVID-19 au toucher de tout. Mais il faut que cette personne soit vraiment en contact. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a touché les habits d'une personne ayant la tuberculose, confirmer qu'on aura la tuberculose. Non, ce sont ces postillons-là. Il faut que tu sois en contact en discutant avec la personne, un contact très proche. Et répéter, là, oui, tu peux avoir la tuberculose. Mais ce n'est pas seulement au toucher des habits, parce que tu as touché les habits d'une personne ayant la tuberculose que tu peux avoir la maladie. Non.
À quel moment on parle de tuberculose pulmonaire contagieuse?
On parle de la tuberculose pulmonaire contagieuse lorsqu'il y a apparition des signes cliniques, lorsque cette tuberculose est active. Apparition des signes cliniques. Parce qu'il y a l'apparition des signes cliniques et que ça a été diagnostiqué, confirmé par les tests de laboratoire que la personne a la tuberculose, à cet instant-là, elle est contagieuse.
Merci. C'était notre entretien avec Mme Elion sur les modes de transmission de la tuberculose, les signes qui doivent alerter, ainsi que les personnes à risque. Madame Darrell Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien Ngouabi de Brazzaville en République du Congo. À présent, vous allez suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, la télémédecine. Cette semaine, dans Carnet de santé, jetons un regard sur les maladies tropicales négligées. Vivre avec l'éléphantiasis. Une jeune Mozambicaine partage son témoignage et certains défis de la vie avec cette maladie. Ensuite, bonne nouvelle dans la lutte contre la maladie du ver de Guinée. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. Plus d'un milliard de personnes dans le monde en souffrent, selon l'OMS. Néanmoins, ces maladies ne reçoivent pas assez d'attention. Schistosomiase, ulcère de Buruli, le trachome et la lèpre sont quelques-unes des maladies tropicales négligées ou MTN. Elles sont un ensemble diversifié de 20 maladies et groupes de maladies qui sévissent principalement dans les zones tropicales. Ces maladies se développent lentement et ont des conséquences dévastatrices, souvent irréversibles, si elles ne sont pas diagnostiquées et traitées. Les MTN affectent les couches les plus vulnérables de la population, influençant considérablement leur qualité de vie. Dans ce reportage de Sergio Nambi, nous voyons les défis vécus par une jeune femme au Mozambique qui souffre de filariose lymphatique, également connue sous le nom d'éléphantiasis. Récit Mohamedou Mfa.
C'était un petit malaise au départ, qui s'est par la suite aggravé.
Ça semblait être une petite affaire qui devait s'améliorer avec les rendez-vous chez le médecin et le traitement, mais ça ne finissait pas. Les années ont passé, j'ai continué à me faire soigner, mais jusqu'à présent, aucune amélioration.
Angela, un nom d'emprunt, souffre de filariose lymphatique ou éléphantiasis, maladie tropicale négligée, transmise par une piqûre de moustique. Elle se caractérise par un gonflement de certains organes, comme les bras, les jambes, les seins ou les testicules. C'est l'une des maladies tropicales négligées qui, selon l'OMS, touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, parmi lesquelles 40% vivent en Afrique.
Nous les appelons maladies tropicales parce qu'elles apparaissent dans le climat tropical et nous les qualifions de négligées car ce sont des maladies qui peuvent être prévenues, traitées, mais qui sont étroitement liées à la pauvreté. Par conséquent, elles affecteront la population la plus défavorisée et entraîneront une dégradation de leur qualité de vie.
Les journées d'Angela ne sont pas faciles.
Je suis triste à cause de mes limites. Je ne peux pas porter les vêtements que je veux. Je ne peux pas porter les chaussures que je veux. Et cela me rend malheureuse.
Selon les experts, l'éléphantiasis est une maladie qui se développe lentement.
Dans la phase initiale, avant tout gonflement, le patient peut ressentir de la fièvre, des douleurs musculaires qui passeront après quelques jours. À partir du moment où le patient est infecté jusqu'au moment de gonflement et tout autre signe d'éléphantiasis, cela peut prendre un an ou plus pour se développer.
Cela fait maintenant 13 ans qu'Angela vit avec cette maladie. Le soutien de sa famille et l'assistance médicale ont été déterminants pour lutter contre la maladie. Chaque semaine, elle va chez le médecin et reste optimiste. Elle rêve même du jour où elle pourra porter les chaussures qu'elle aime. Comme Angela, ils sont nombreux qui portent le fardeau de l'éléphantiasis. En 2016, selon l'OMS, 14,9 millions de personnes ont reçu un traitement contre l'éléphantiasis et 20,2 millions en avaient encore besoin. À l'hôpital central de Maputo, l'éléphantiasis est la deuxième des maladies vasculaires enregistrées.
Le docteur Francisca Mutapi est professeure d'infection et d'immunité en santé mondiale et co-directrice de la Global Health Academy à l'Université d'Edinburgh en Écosse. Elle explique les défis et les opportunités de la lutte contre les maladies tropicales négligées.
Les maladies tropicales négligées sont énormes. Elles sont le plus grand fardeau parasitaire en Afrique. Donc si on en prend une seule, c'est le deuxième problème de santé publique le plus important en Afrique, juste après le paludisme. Et c'est la bilharziose. Et le problème avec ces maladies, c'est qu'elles n'ont pas qu'un seul symptôme clinique. Elles n'affectent pas qu'un seul organe. Elles affectent tout le corps. Donc vous en avez qui cause la cécité, vous en avez qui cause la défiguration physique. Et si vous prenez prenez la schistosomiase ou la bilharziose, cela a un impact sur la capacité des enfants à apprendre. Cela réduit leur capacité physique. Cela réduit également la fertilité chez les femmes. Nous avons une version de cette maladie qui affecte le tractus urogénital, ce qui affecte la santé reproductive et la fertilité. Et c'est aussi beaucoup d'infections vers les vers parasites qui affecteront la santé des femmes enceintes, de sorte que la femme enceinte et l'enfant qui naîtra par la suite souffriront de complications de santé. Et c'est avant même que nous n'arrivions au cancer qu'il cause. Je dis toujours que ces maladies sont inutiles car nous avons tous les outils pour vraiment les contrôler et les éradiquer. Je suis vraiment ravie d'avoir participé au processus de rédaction de la déclaration de Kigali. D'abord et avant tout, c'est la déclaration de Kigali sur les entités et non la déclaration de Londres sur les entités qui vous dit quelque chose, car cela signifie que les pays africains où ces maladies sont endémiques s'approprient le contrôle de ces maladies. Donc pas seulement dans leur pays, mais aussi en rassemblant le reste des pays africains. C'est la responsabilité de chacun. C'est aussi la responsabilité des pays où ces maladies ne sont pas endémiques. Et c'est très important pour la sécurité mondiale. La COVID-19 nous a montré que vous avez besoin d'un système de santé bien équipé pour la surveillance des maladies.
Le Carter Center à Atlanta, cofondé par l'ancien président américain Jimmy Carter, affirme avoir enregistré en 2021 le plus faible nombre d'infections au ver de Guinée, ce qui le rapproche de l'objectif d'éradication. Ken Farabot de VOA raconte cette étape importante. C'est avec la voix de Blanche Sanou.
Au cours d'une conférence de presse en 2015, l'ancien président américain Jimmy Carter, aux prises avec un diagnostic de cancer potentiellement mortel, a déclaré qu'il avait un autre objectif à atteindre.
Je voudrais que le dernier ver de Guinée meure avant moi.
Plus de 6 ans plus tard, M. Carter, maintenant âgé de 97 ans, a survécu au cancer du cerveau et d'autres problèmes de santé. Son objectif à présent est de voir le Carter Center marquer une étape historique dans la lutte contre cette maladie tropicale, le ver de Guinée, autrefois négligé. L'organisation à but non lucratif a commencé à consacrer des ressources à la lutte de cette maladie depuis 1986.
Nous sommes heureux de mentionner qu'il n'y a que 14 cas dans le monde jusqu'à la fin de 2021 et aucun autre cas n'a été enregistré jusqu'à présent en 2022.
C'est le plus petit nombre de cas enregistrés dans l'histoire de l'humanité, déclare Adam West, directeur du programme d'éradication du ver de Guinée du Centre Carter. Ces efforts de lutte ont suscité des espoirs de faire du ver de Guinée la deuxième maladie jamais éradiquée.
Ainsi, chaque année, plus de 3 millions de personnes souffraient de ver de Guinée et aujourd'hui, pouvoir dire qu'il n'y a que seulement 14 malades de ver de Guinée sur toute la planète et près de 8 milliards d'habitants est tout simplement remarquable.
Remarquable selon Adam West car les 14 cas en 2021 représentent également une baisse de 48% par rapport à l'année précédente, une époque où tout le monde était aux prises avec la pandémie de coronavirus. Le Mali, l'Éthiopie, le Tchad et les régions frontalières avec le Cameroun sont les derniers bastions du ver de Guinée sur la planète. Mais seul un petit nombre de cas ont été enregistrés chez les animaux en 2021 et la lutte contre le ver semble toucher à sa fin. Alors que le nombre de cas de ver de Guinée diminue dans le monde, l'âge du président Carter avance et Adam West dit que toutes les personnes impliquées dans l'effort aimeraient voir l'objectif de zéro cas atteint bientôt.
Voici à la fin de notre programme « Votre santé, votre avenir ». Dans la première partie, nous avions reçu Mme Darel Ignon, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marimbabie de Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Lilian Moudou vous a présenté Carnet de santé. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel Joseph. Elle vous a été présentée par Nanit Talami. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555,